Il arrive très souvent, continuellement en fait, que des gens rentrent dans cette église, mais ce n'est pas le propre de cette église, je crois que c'est le propre de toutes les églises. Et après avoir regardé, en regardant les ex-voto et en levant les yeux sur les murs, sans forcément même avoir la foi, ressortent et disent « il y a ici quelque chose de spécial ». J'ai été aussi frappé de voir récemment dans un rapport du ministère de la Culture qui avait été demandé par le président de la République que dans ce rapport, la plupart des communes de France avaient décidé de garder leur église, y compris les églises où il ne se passait plus rien. Intéressant. D'où vient que ces endroits aient tellement d'importance? D'où vient qu'on aime venir dans les églises? D'où vient que dans ces églises, on se sente bien, normalement, quand ça va bien? L'origine remonte presque à Adam et Ève. Avec Adam et Ève, Dieu est présent. Et puis Adam et Ève pêchent, et la difficulté après, pour Dieu, ça va être de se rendre présent à Adam et Ève. Ils vont se cacher. Dieu va les chercher. Mais Dieu ne va pas cesser, dans l'Ancien Testament, de vouloir se présenter à l'homme. Vous vous souvenez, Moïse, le buisson ardent. Moïse ne comprend pas grand-chose. Moïse est un criminel, il traverse le désert, il se marie à un puits, il rencontre une femme, Sippora, et il s'occupe des bêtes de son beau-père, très bien. Et tout d'un coup, dans une montagne, il voit un buisson ardent. Et dans ce buisson ardent, la présence de Dieu. Et Moïse tourne autour du buisson ardent, cherche à comprendre ce qui se passe, mais ne pourra comprendre ce qui se passe qu'après avoir enlevé ses sandales, parce que Dieu lui dit « ce territoire est un territoire sacré, enlève tes sandales pour me rencontrer ». Vous voyez, Dieu commence à habituer Moïse à la rencontre. Ensuite, quand Moïse va libérer le peuple dans le désert et que le peuple va le suivre pendant 40 ans, enfin 40 ans c'est un chiffre symbolique comme vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, Moïse va continuer à rencontrer Dieu, mais là, dans la tente de la rencontre. C'est une tente, c'est un espace qui est à l'extérieur du camp, et c'est là que Moïse rencontre Dieu. Et puis, petit à petit, Dieu va vouloir une maison un peu plus solide. Et là, on arrive au temple de Salomon. Ça me dit un peu plus quelque chose. C'est en moins 87. Enfin, en moins 600 avant Jésus-Christ, si vous voulez, que ça a lieu. Donc pour nous, ça paraît loin, mais pas tant que ça. Moins 600 avant Jésus-Christ. Un temple qui a été construit par Salomon sur l'endroit du temple actuel à Jérusalem, la ville de la paix, Yerushalem, la ville de la paix. Un temple immense, fantastique, avec des murs très hauts, tellement hauts et recouverts d'or qu'on le voyait du désert, parce qu'il brillait au soleil, ce temple. Voilà. Le lieu de la rencontre, c'est Dieu qui a voulu ça. Pourquoi Dieu a voulu ça? Parce qu'il fallait habituer l'homme au fait que Dieu voulait le rencontrer dans un lieu. Ça paraît idiot, mais si l'homme s'abstient d'un lieu, vous allez voir que ça va se complexifier et s'affiner après, mais si l'homme d'abord ne comprend pas que Dieu veut le rencontrer quelque part, eh bien la suite de l'histoire ne sera pas possible. La relation plus profonde avec Dieu ne sera pas possible. On va y arriver avec l'épisode que nous avons entendu tout à l'heure dans l'Évangile. Mais pour l'instant, premier temple de Salomon et destruction. Et destruction, exil à Babylone, dans ces eaux-là, vous voyez, dans moins 587, Babylone. Dans ce temple, il y avait l'arche, il y avait le bâton d'Aaron, il y avait la manne aussi. Mais on n'en parle plus. Et destruction absolue du temple, il ne reste plus rien, sauf l'espace où le temple était. Et reconstruction du temple par Zorobabel. Zorobabel reconstruit le temple et Hérode de Jésus va le peaufiner, va le construire, va l'améliorer. Il est moins beau que le temple de Salomon, mais il est quand même immense. Il a des pierres, vous savez, des pierres qui font 20 mètres de long sur 10 mètres de large, des soubassements. On voit à peu près ce que pouvait être le temple, parce que quand on va au mur des Lamentations, on a affaire au soubassement du temple. Vous voyez ? Avec des pierres fantastiques. Voilà. Et puis ensuite, redestruction du temple en plus 70, c'est-à-dire 70 ans après Jésus. Je vous raconte tout ça parce que sinon on ne comprend pas ce qui va se passer dans le temple. Vous voyez que deux destructions et depuis que le temple a été détruit une deuxième fois, et bien il n'a jamais été reconstruit. Alors ça voudrait dire que Dieu ne veut plus rencontrer l'homme, alors que c'est Dieu qui avait commandé la construction du temple. On peut ne pas comprendre. Et pourtant la solution se trouve dans l'évangile que nous venons de lire. Mais elle n'est pas évidente, c'est vrai. À la première lecture, on peut facilement confondre les marchands du temple de Jérusalem avec les marchands du temple de Lourdes. Ce qui, à mon avis, est une bêtise. Mais bon, vous allez voir. Qu'est-ce qui se passe au temple ? Au temple, on offre à Dieu des prières. Très bien. Mais les offrandes des Juifs sont toujours concrètes. Et ça, c'est ce que Dieu a appris au peuple juif. Il leur a appris que pour que la prière soit valable, entre guillemets, il faut que la prière soit concrète, c'est-à-dire qu'elle se manifeste par quelque chose de sonnant et trébuchant. Et ce qui est sonnant et trébuchant au début de l'histoire, c'est les bêtes. Ce que vous avez de plus beau, c'est la bête. C'est les bêtes que vous faites dans le champ, que vous faites... voilà. Et donc vous offrez à Dieu un animal de votre troupeau, parce que c'est le fruit de votre travail, pour que Dieu féconde à nouveau votre travail. Entre parenthèses, ça c'est l'ancêtre de la quête. Et comme je vous le dis souvent, la quête, ce n'est pas le racket, c'est l'offrande. Il ne faut pas confondre. Et donc le peuple hébreu avait pris l'habitude d'offrir à Dieu des animaux. Seulement, si vous habitez dans le nord d'Israël, ou dans le sud, que vous vous amenez avec votre bœuf, et que votre bœuf il meurt, au bout de 3 jours de marche, vous faites comment ? Pour retourner à la maison, on prend un autre bœuf. Ils sont obligés de le faire tous les ans. Alors ils sont malins, ils ont trouvé une autre solution. Ils amènent des animaux près du temple, et même dans le temple. Et puis ces animaux, on peut les acheter. Alors il n'y a plus qu'à venir au temple avec une bourse, de l'argent. Sauf que l'argent qu'on a à l'extérieur du temple n'est pas le même qu'il y a à l'intérieur du temple. C'est pour ça qu'il faut d'abord changer l'argent avec la monnaie du temple, et avec la monnaie du temple, sans l'effigie de César, sans la face de César qui était inscrite sur les monnaies qui avaient cours à l'extérieur du temple, on pouvait enfin acheter l'animal du sacrifice. Ça va, vous suivez ? J'ai l'impression de vous perdre. Donc c'est légitime. C'est légitime qu'il y ait des animaux, c'est légitime qu'il y ait de l'argent pour pouvoir offrir un sacrifice à Dieu. Alors même si les prêtres en profitent pour prendre un petit pourcentage sur la transaction, et qu'il y en a beaucoup qui se font pas mal d'argent, même si la réputation du temple à l'époque de Jésus et même à l'époque de Jean-Baptiste est détestable parce que les prêtres font pas leur boulot, il n'empêche que c'est ce que Dieu a demandé. Et donc ils le font. Tout ça, on le sait à cause du livre du Lévitique. Vous voyez, c'est marqué dans un livre très précisément. Ils reproduisent précisément ce qui est marqué dans le livre. Du coup, on comprend pourquoi est-ce que le prêtre, il vient voir Jésus. Jésus chasse les marchands du temple. Et du coup, le prêtre lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? On ne va plus pouvoir offrir de sacrifice. Et c'est là qu'on comprend effectivement cette phrase, mais donne-nous un signe que ce que tu es en train de faire est prophétique. On peut comprendre. C'est logique, sa réaction est absolument logique. Alors on voit Jésus, et il n'y a pas été de main morte, hein, Jésus, on sait exactement comment ça s'est passé. Il a pris un nerf de bœuf. Un nerf de bœuf, c'est des tendons de bœuf qui sont tournés, qui sont aussi solides qu'une barre de fer. C'est un truc qui fait à peu près un mètre. Et Jésus se met à taper sur les animaux et à taper sur les comptoirs. Ça a dû faire un barouf pas possible. Donc le gars, il devait être un peu musclé, vu qu'il était charpentier. Déstabilisation. Comment est-ce qu'on peut comprendre? Et surtout nous, aujourd'hui, qu'est-ce que ça peut nous apporter, le fait que Jésus ait chassé les marchands du temple? C'est qu'en fait, les marchands du temple n'avaient plus rien à faire dans le temple. Et les changeurs n'avaient plus rien à faire dans le temple. Et même, il n'y avait plus besoin du temple. Et c'est ce que Jésus montre. Quand il chasse les marchands du temple, il est en train de dire, on n'a plus besoin des marchands du temple. On n'a plus besoin des animaux. Parce que l'animal qui va être sacrifié, l'agneau qui va être sacrifié, c'est moi. Et toutes vos prières que vous faites avec les animaux du sacrifice, vous n'aurez plus besoin de prendre des animaux. Il suffira de venir à la messe, il suffira de s'unir à l'offrande de l'autel, le même autel entre parenthèses qu'il y a à Jérusalem, au temple de Jérusalem, hein, avec les marches, etc., etc. Si vous vous unissez à cette offrande que le prêtre fait, l'offrande de l'agneau à son père, alors vous serez nourri, profondément nourri dans tout votre être par Dieu lui-même. C'est ça le sens des marchands du temple, du fait que Jésus ait chassé les marchands du temple. Alors, la preuve de ça, c'est la phrase de Jésus quand il dit, il a fallu 46, quel signe peux-tu nous donner? Jésus leur répondit, détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. Mais il est bien en train de dire qu'il y a un passage entre le temple physique et le temple mystique qu'est Jésus. Est-ce que c'est tout? Est-ce que ce sont les seules vérités qu'il faut comprendre pour marcher selon le cœur de Dieu aujourd'hui? Non, parce que Dieu va plus loin à cause d'une femme, on le comprend. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la Samaritaine, au bord d'un puits, toute seule, elle a eu 5 maris. Je vous passe l'histoire et les détails de l'histoire qui sont croustillants. Il faut aller à la fin de l'histoire. Et qu'est-ce que dit Jésus à cette femme? Il lui dit, vous n'aurez plus besoin d'aller sur le mont Garizim. Vous n'aurez plus besoin d'aller à tel endroit pour prier. Parce que les Samaritains avaient interdiction d'aller à Jérusalem. Ils devaient aller prier sur une autre montagne. Et Jésus leur dit, mais tu n'auras plus besoin de faire ça. Tu n'auras même plus besoin d'aller à Jérusalem. Puisque tu seras le temple. Vous voyez, l'étape d'après, c'est que ce n'est pas seulement Jésus le temple, le lieu de la rencontre. Le lieu de la rencontre, c'est chacun d'entre nous. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Tu n'as plus besoin d'aller à l'extérieur de toi. C'est le grand saint Augustin qui nous l'a appris. Tu n'as plus besoin d'aller à l'extérieur de toi. À l'intérieur de toi, il y a la Trinité. De même que Dieu était présent dans le buisson ardent, Dieu est présent à l'intérieur de votre corps. Et qu'est-ce qu'il faut pour ça? Est-ce qu'il faut communier au corps du Christ? Non. Ce qu'il faut pour ça, c'est simplement être baptisé. C'est le baptême qui donne la présence. Avant le baptême, Dieu est présent à la personne, mais pas à l'intérieur de la personne. Un peu mystérieux, mais c'est la vérité. Au moment du baptême, Dieu est présent dans la personne. Alors vous voyez, cette fête que nous fêtons aujourd'hui, la fête du Latran, c'est surtout la fête d'un Dieu qui veut nous rencontrer, qui veut nous parler. Parce que dans la rencontre avec Moïse et avec tous les autres, Dieu parle, Dieu nous dit des choses. Voyez, Dieu nous a dit des choses par les lectures, Dieu nous dit les choses par des chants, Dieu nous dit des choses par les événements qui ont lieu pendant la messe. Et j'espère Dieu vous parle pendant le sermon. Normalement, d'une façon directe ou indirecte. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin que Dieu nous parle. Parce qu'on a besoin de l'entendre. Parce que la parole de Dieu, quand on l'entend, elle guérit notre âme. Elle guérit notre intelligence, notre volonté, notre mémoire. C'est pour ça qu'il faut le rencontrer. Ici, et c'est une grâce immense, ici nous avons des ex-voto qui sont collés sur les murs, qui sont d'autant de témoignages, il y en a 37 000, autant de témoignages de gens qui ont rencontré Dieu et que Dieu a exaucé. À travers sa mère, à travers son fils, à travers les saints. Mais Dieu veut vous rencontrer. Il a des choses à nous dire. Alors, demandons à la Sainte Vierge de nous préparer à cette rencontre. Et que de cette rencontre, nous puissions porter des fruits. Mais des fruits, comme on en parle dans la première lecture, des fruits abondants, des fruits qui viennent d'un flot immense de grâce qui coule du temple, de ce temple-là et de tous les temples, et de chacun d'entre nous. Amen.